Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Toute simplicité. La vie que les hommes louent et saluent comme une vie de succès n'est bien qu'une seule des nombreuses variétés de vie existantes. Pourquoi devrions-nous valoriser une seule de ces variétés aux dépens de toutes les autres? À l'état sauvage, chaque famille possède un abri aussi bon que les meilleurs et suffisent pour couvrir ses besoins les plus frustres et les plus simples. Mais je pense que personne ne me contredira si je dis que, alors que les oiseaux ont leur nid, les renards leur terrier et les sauvages leur wigwam, dans la société civilisée moderne, pas plus d'une famille sur deux ne possède son abri. Dans les grandes villes où la civilisation est particulièrement dominante, le nombre de personnes possédant un abri ne représente qu'une faible fraction du tout. Les autres paient pour jouir de ce vêtement le plus externe de tous, désormais indispensable été comme hiver, une taxe annuelle qui leur permettrait d'acheter un village entier de wigwam, mais qui ne leur sert qu'à les maintenir dans la pauvreté jusqu'à la fin de leur vie. Mon but ici, n'est pas ici de vanter les avantages de la propriété sur la location. Je veux simplement souligner que le sauvage est propriétaire de son propre abri parce que celui-ci est fort peu onéreux, alors que l'homme civilisé loue en général le sien parce qu'il n'a pas les moyens d'en devenir propriétaire. Au bout du compte, sur le long terme, il n'a d'ailleurs même pas le moyen d'être locataire. Le coût d'une chose est la quantité de ce que j'appellerais vie que vous devez offrir soit sur le champ, soit à long terme pour obtenir cette chose. Là où je vis, une maison moyenne coûte environ 800 $. Amasser une telle somme prendra au travailleur 10 à 15 ans de sa vie, même s'il n'a aucune famille à charge, en estimant la valeur pécuniaire du travail d'un homme à 1 $ par jour, car si certains en gagnent plus, d'autres aussi en gagnent moins. De sorte qu'il devra communément avoir vécu plus de la moitié de sa vie avant de posséder son wigwam à lui. La question de savoir s'il est plutôt mieux de il eût plutôt mieux fait de payer un loyer n'ouvre que sur un choix douteux entre deux mots. Le sauvage aurait-il été sage d'échanger son wigwam contre un palais à ces conditions-là?
Vivre dans le bois, je veux vivre
Bienvenue à toute simplicité. Comme dit Richard Séguin, j'aimerais vivre dans le bois. Et Taureau, l'extrait de Walden que j'ai lu avant, parlait des modes de vie des Indiens qui avaient leur propre wigwam, qui possédaient leur maison, alors que pour nous, les modernes, c'est beaucoup... c'est très exigeant, ça demande une grande partie de notre vie pour arriver... pour ceux qui arrivent même à être propriétaires de notre maison. Alors, c'est un peu la thématique, d'ailleurs, qu'on va aborder, entre autres à l'émission, mais aussi cet automne qu'on aborde, en fait, les modes de vie alternatifs. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on aura un cercle de discussion au Centre Frédéric Bach le 30 novembre prochain sur les cohabitats. Et les expériences de cohabitat, c'est une formule qui peut être intéressante comme pour des gens qui voudraient être propriétaires et vivre un mode de vie intéressant, alternatif. Alors, on commence à avoir des cohabitats apparaître un peu partout et la formule est explorée. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse, il y aura deux gens du cohabitat, du nouveau cohabitat de Neuville, deux personnes du cohabitat de Neuville qui seront présents sur place pour cette discussion-là qu'on va avoir avec eux, qui pourront répondre à des questions. On aura une discussion sur les modes de vie alternatifs. Donc, le 30 novembre prochain, au Centre Frédéric Bach, sur ce labéry, c'est où est situé le local des Amis de la Terre. Dans les lectures, dans ma revue de presse de la semaine, j'ai le devoir de jeudi, d'hier, en fait, qui parle du dernier cri. Le titre de l'article, c'est « Le dernier cri du cœur d'Hubert Reeves ». Avant son décès, le mois dernier, le célèbre astrophysicien a livré un plaidoyer pour la sauvegarde de la planète dans l'océan vu du cœur. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un documentaire qui est à l'affiche dans plusieurs cinémas du Québec, à Québec entre autres, à partir d'aujourd'hui. Et je vous recommande vraiment d'aller voir ça. Hubert Reeves, c'est notre grand sage de l'écologie, notre dernier grand sage, et il nous transmet son héritage, il nous passe le bâton de relais, puis à partir de ce bâton-là, bien, c'est à nous à le prendre, puis à poursuivre le travail. Alors, c'est ça, l'article, je vous lis un petit extrait de l'article qui parle du documentaire. Alors, 2 ans avant son décès, survenu le mois dernier, Hubert Reeves a accordé sa dernière entrevue au sujet de sa plus grande préoccupation, que la Terre devienne inhabitable à cause de l'activité humaine. Ce discours impensable, il y a 100 ans, n'a rien d'un scénario catastrophiste. C'est devenu une réelle possibilité, préviennent les plus grands scientifiques du moment. En agissant comme elle agit, La vie humaine est une menace puisqu'elle pourrait faire disparaître la vie, en tout cas dans ses formes les plus complexes de la planète. C'est le problème majeur de l'humanité, affirme le célèbre astrophysicien dans le documentaire « L'océan vu du cœur » qui prend l'affiche vendredi dans une dizaine de cinémas du Québec. Le film d'une heure et demie révèle pourquoi les océans font partie des écosystèmes les plus vulnérables de la planète et pourquoi ça devrait interpeller les terriens que nous sommes. Les meilleurs spécialistes de la vie marine ainsi que d'autres disciplines scientifiques montrent les ravages de la pêche industrielle, l'envahissement des océans par les déchets de plastique et la mort de coraux qui suffoquent sous la hausse rapide des températures de l'eau. Alors, je vous le recommande. Moi, je vais vous en parler parce que je vais aller le voir, moi, cette semaine. Alors, la semaine prochaine, je vais en parler à l'émission. On a aussi, dans le devoir de mercredi, le Canada est sur la voie de l'échec climatique, un article d'Alexandre Shields. Même si le gouvernement Trudeau se dit persuadé d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable n'est pas aussi optimiste. Il estime au contraire que le Canada ratera sa cible, notamment parce qu'il tarde à plafonner les émissions du secteur des énergies fossiles. Le gouvernement fédéral n'est pas en voie d'atteindre l'objectif fixé dans son plan de réduction des émissions pour 2030, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % sous le niveau de 2005. Conclut sans détour le commissaire Jerry DeMarco dans un rapport publié mardi matin à quelques semaines de la conférence climatique des Nations Unies, la COP28, qui va avoir lieu dans quelques semaines et dont un de nos invités, Jean Nolette, qui était ici, il était invité il y a deux semaines, va assister pour Coop Carbone et l'aura probablement en entrevue là, qui va nous parler de ce qu'il a vu là-bas. Alors, pour poursuivre avec l'article dans le devoir de mercredi, dans un contexte de contestation du système de tarification du carbone, notamment par le Parti conservateur du Canada, le commissaire insiste sur l'importance d'une telle mesure pour espérer réduire les émissions canadiennes. Il salue du même coup la volonté des libéraux de renforcer cette mesure en augmentant le prix de la pollution au cours des prochaines années, mais il souligne le trop grand optimisme par rapport à d'autres mesures qui n'ont pas encore fait leurs preuves, comme la capture et le stockage du carbone. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilmeault, a admis mardi que le Canada a encore du chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs climatiques. Mais il a affirmé que le gouvernement met en place les mesures nécessaires pour réduire les émissions, tout en critiquant sévèrement les conservateurs de Pierre Poilievre qui veulent, selon lui, revenir en arrière en abolissant notamment la tarification sur le carbone qui représente à elle seule jusqu'au tiers des réductions des émissions prévues d'ici 2030. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les pays riches comme le Canada doivent par ailleurs bonifier leur cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de façon à atteindre la carboneutralité en 2045 et non en 2050, comme le prévoit l'engagement fédéral. Les plus récentes données officielles indiquent que le Canada était en 2011 le 10e émetteur mondial de gaz à effet de serre et ses émissions par habitant représentaient 17,5 tonnes. À titre de comparaison, on estime que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et ainsi respecter l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, il ne faudrait pas que les émissions moyennes mondiales dépassent les 2 tonnes par personne. Alors, on a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Ensuite, on avait dans le devoir d'aujourd'hui un article de José Blanchet, « La langue à terre, faire la grève du superflu et de l'essentiel ». On parle des grèves, surtout des infirmières, des enseignantes à bout de souffle. Les femmes ne réclament pas que des hausses salariales. Elles veulent du temps pour ne pas craquer, pour tout concilier. Nous, c'est ce qu'on dit toujours, là, que c'est pas nécessairement seulement des problèmes monétaires, c'est que les femmes sont épuisées, les infirmières sont épuisées. Dans le portrait des Québécoises du Conseil du statut de la femme 2021, on avance que 34 % de la tranche des 35 à 49 ans perçoit la vie comme stressante. Et ces femmes en âge de materner nomment la famille comme leur plus grande source d'épuisement, selon l'INSPQ. L'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, 2019, pré-pandémique. Ce sont 35 % des travailleuses qui souffrent de détresse psychologique élevée. Très élevée. Enfin, dernière lecture, je vous en avais parlé la semaine dernière, le nouveau Philosophie Magazine qui arrive toujours en retard, c'est celui d'octobre qui est en kiosque présentement. Il y a plusieurs bons articles dedans et notamment, j'en avais parlé, là, un article d'Arput Rosa qui parle de l'accélération et le remède à l'accélération, le mode de vie rapide, c'est la résonance. Alors, il dit « La résonance consiste à accepter d'être dérangé dans ses habitudes. Dans notre rapport au monde, à nos semblables et à nous-mêmes, faut-il chercher l'harmonie ou cultiver la différence? » Pour le sociologue Hartmut Rosa, penseur de l'accélération et de la résonance qui vient de faire paraître pourquoi la démocratie a besoin de la religion, il s'agit d'entendre la contradiction et de reconnaître nos impuissances. Alors, réflexion intéressante. Et enfin, il y a le numéro, il y a toujours un numéro central, j'en avais parlé à la dernière émission, sur un philosophe en particulier. Puis on parle de Proudhon, le philosophe Proudhon, qui avait réfléchi sur la propriété. Pierre-Joseph Proudhon a longtemps été mal compris. Son célèbre « La propriété, c'est le vol » en a fait un révolutionnaire alors qu'il croyait en un anarchisme fondé sur le fédéralisme et le mutualisme, posant ainsi les bases du socialisme. Alors, c'est dans le dernier Philosophie Magazine. Alors, on prend une petite pause musicale. Puis au retour, je vais poursuivre avec les exercices spirituels de Pierre Hadot.
Je voudrais réinventer l'homme total, celui qui était à sa place, qui était à la bonne place, et qui perd pas sa place partout, tout le temps, parce que tout un chacun et tout le monde est à la bonne place au bon moment, dans le soleil.
Comment puis-je te dire mon amour? Personne n'est à moi que je sache. Je m'appartiens à certains jours quand nul ni rien ne m'attache. Je voudrais te laisser couler sans jamais faire de barrage, sans t'empêcher de traverser tout le beau pays de ton âge. Comment puis-je te dire mon amour? L'oiseau qui vole est-il volage? Quelle est sa route et vers quel jour? Vers quel nid court-il? Vers quelle cage? J'ai l'espérance de libérance, d'aurore, de corps, de cœur et d'âme. J'ai souhaitance d'envolance au travers de l'air diaphane. Comment puis-je te dire mon amour? Comment frôler ta transparence? Et te lire comme en plein jour, à la lueur de l'innocence. Comment savoir ce qui est bien pour toi, pour moi, pour tout le monde? Comment faire pour que nos liens ne deviennent nœuds à la longue? Comment puis-je te dire mon amour sans être parfois questionneuse? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Qui était cette voyageuse? Je voudrais te laisser le droit de marcher tes secrètes routes, à l'abri de tous mes pourquoi, sans faire peser sur toi mes doutes. Entre toi et moi, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou bien qu'il grêle. Je voudrais juste être à l'écoute des paroles que tu ne dis pas, pour garder fort, coûte que coûte, tout en fleurs, le désir de toi. Comment puis-je te dire mon amour? Personne n'est à moi que je sache. Je m'appartiens à certains jours, quand nul ni rien ne m'attache.
Alors, c'était Julose Boucan. En fait, c'est la chanteuse, j'oublie le nom de la chanteuse qui chante sur son album. Mais c'est ça. Alors, je vous ai passé deux petits extraits. De Julose Boucan, de Le Jaseur Boréal. C'est l'album Le Jaseur Boréal. Donc, comme je vous disais, je vais vous lire quelques extraits du livre de Pierre Hadot, N'oublie pas de vivre, Goethe et la tradition des exercices spirituels. Pierre Hadot, on en parle beaucoup à l'émission parce que il y a, comme je l'ai mentionné souvent, c'est qu'il a bien expliqué comment la philosophie dans l'Antiquité, c'était d'abord une façon de vivre, un mode de vie. Puis c'est la simplicité volontaire, c'est ça, c'est un mode de vie alternatif. C'est ce qu'on va discuter d'ailleurs au cercle de discussion. Et alors Pierre Hadot, dans ses travaux, bien expliquer ça. Puis ça, c'est son dernier livre, « N'oublie pas de vivre, Goethe et la tradition des exercices spirituels ». C'est vraiment un beau livre, sur la simplicité volontaire, que je vous recommande. Alors, je vous lis quelques extraits encore une fois, les exercices spirituels. Les exercices spirituels, comme je le disais la dernière fois, c'est pas religieux. Pierre Hadot a inventé fait connaître ce concept-là. C'est une façon d'expliquer. C'est des exercices que je pourrais dire plutôt mentaux, d'esprit, de façon de vivre, de bien vivre. Pour tout ça, d'ailleurs, que le titre du livre, c'est « N'oublie pas de vivre ». Alors, il dit, par exemple, le présent, le trivial et l'idéal. Pour Goethe, nous l'avons dit, les anciens savent vivre dans le présent, dans la santé du moment, au lieu de se perdre, comme les modernes, dans la nostalgie du passé et du futur. Signification philosophique du regard d'en haut chez les philosophes antiques. Pour les philosophes antiques, le regard d'en haut est un exercice de l'imagination par lequel on se représente que l'on voit les choses d'un point élevé qu'on a atteint en s'élevant de terre, le plus souvent grâce à un vol de l'esprit dans le cosmos. Il y a une très abondante littérature antique se rapportant à cette métaphore du vol de l'esprit. J'en parlais la semaine dernière, là, les philosophes allaient escalader des montagnes pour avoir ce regard d'en haut-là. Dans la perspective qui est la nôtre actuellement, je n'évoquerai que les textes qui ont un rapport avec un regard dirigé vers la terre ou vers le tout, avec un mouvement vers l'infini. En effet, on peut observer que le mouvement imaginatif d'élévation vers les hauteurs est inspiré par le désir de plonger dans la totalité et même dans l'au-delà de la totalité, dans l'infini, comme le dit l'auteur du traité du sublime. Pas même l'univers entier ne suffit à la contemplation et à la pensée correspondant à l'aspiration de l'homme, mais souvent ces pensées sortent des bornes du monde qui l'entoure. Le regard d'en haut correspond donc à un arrachement qui libère des pesanteurs terrestres. Mais cela n'exclut pas une vision critique portée sur la petitesse et le ridicule de ce qui passionne la plupart des hommes. Alors ici, il fait référence à Platon, faisant dans le Théète le portrait du philosophe. Platon écrit « C'est son corps seul qui est situé dans la cité et qui y séjourne, mais sa pensée qui considère toutes ces choses d'ici-bas comme mesquinerie et néant, sa pensée promène partout son vol, comme dit Pindare, au-dessus de la terre, mesurant sa surface, et au-dessus du ciel, contemplant les astres, et partout, scrutant en fond, toute la nature de chacun des êtres, sans redescendre à rien de ce qui est proche de lui. » Et dans La République, c'est encore au sujet du philosophe que Platon écrit « Une telle âme ne doit recéler aucune bassesse. La petitesse d'esprit étant incompatible avec une âme qui doit tendre sans cesse à embrasser l'ensemble de l'universalité du divin et de l'humain. Mais l'âme à laquelle appartient l'élévation de la pensée et la contemplation de la totalité du temps et de l'être, crois-tu qu'elle fasse grand cas de la vie humaine? Un tel homme ne regardera donc pas la mort comme une chose à craindre. » On reconnaît bien ici la représentation d'un vol au-dessus des choses terrestres. Mais on ne trouve pas chez Platon de description détaillée d'un exercice spirituel du regard d'en haut. De telles descriptions apparaissent pourtant dans la tradition platonicienne. Cicéron, dans le songe de Scipion, présente sans doute cette expérience comme vécue en songe, mais l'auteur et son lecteur n'en font pas moins un exercice spirituel, l'un en composant, l'autre en lisant le récit de ce songe. Cet exercice consiste à imaginer la vision du ciel, des astres, de la terre qu'on peut avoir du haut de la Voie lactée. C'est l'univers entier que le regard embrasse alors. Les neuf sphères dont la plus extérieure est Dieu lui-même, les étoiles, les planètes et la terre enfin, avec ses montagnes, ses fleuves, l'océan. Dans une telle expérience, l'individu s'efforce de se replacer dans le tout. On pourrait dire qu'il s'agit de physique vécue, intériorisée. Elle fait comprendre à l'âme la petitesse des choses humaines, la vanité de la gloire, le vrai sens de la destinée de l'homme, appelé à vivre, non pas sur la terre, mais dans l'immensité du cosmos. Philon d'Alexandrie, aux environs de l'ère chrétienne, évoque son expérience philosophique. « J'avais l'impression d'être constamment soulevé dans les airs, porté par une inspiration divine qui s'emparait de mon âme et de circuler en compagnie du soleil et de la lune, en compagnie aussi du ciel, de l'univers tout entier. » Alors, si je me penchais d'en haut de cet éther et si j'étendais le regard de mon esprit comme du haut d'un observatoire, je pouvais contempler les spectacles innombrables que m'offrent toutes les choses qui sont sur terre et je me félicitais d'avoir échappé de vive force aux calamités inhérentes à la vie mortelle. Alors, c'est certain que les philosophes du passé, il s'exerçait, il arrivait à ces niveaux-là de conscience, de présence, d'être dans le moment présent, c'est ce que les philosophes recommandaient de faire. Et le regard d'en haut, ça décrit bien un peu l'expérience de vie intérieure des philosophes dans l'Antiquité. que Pierre Hadot nous a bien présenté dans ses différents ouvrages, dont celui-là, N'oublie pas de vivre. Alors, on prend une autre pause musicale, puis je vais poursuivre encore avec Pierre Hadot sur la vision d'en haut.
Un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Un cheval, puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre. Puis nous raserons la ville en passant. Côté homme, quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps.
Alors, c'était Fred Pellerin, le grand cerf-volant de son album Plus tard qu'on pense. Bon, alors, je poursuis encore avec Pierre Hadot sur Le regard d'en haut. Puis, son livre, c'est sur Goethe. Alors, il commence avec les philosophes de l'Antiquité, mais il y a toujours son bout sur Goethe, là. Alors, le chapitre, c'est « Les différentes formes de regard d'en haut » chez Goethe. Pour Goethe, l'exercice du regard d'en haut prend la forme d'une description des impressions éprouvées, soit lors d'un séjour réel ou fictif au sommet d'une montagne, soit lors d'une ascension dans les airs imaginée sur le modèle du vol en montgolfière, soit celui d'un vol dans le cosmos. Quelques années auparavant, en effet, avait eu lieu le premier vol de l'homme dans les airs lorsque les frères montgolfières avaient fait leur ascension le 5 juin 1783. Goethe avait été vivement impressionné par cet événement et il avait suivi avec passion toutes les expériences du même genre qui avaient eu lieu en Allemagne à cette époque. Les sommets de montagne et les expériences de renouvellement. Les sommets de montagne sont pour Goethe en quelque sorte des lieux magiques qui exercent une influence sur l'individu qui les atteint. Comme William Emmerich l'a fait remarquer, c'est un trait caractéristique de la vieillesse de Goethe de situer sur une haute montagne l'instant décisif où s'opère pour ses héros une profonde transformation intérieure lorsque se détache de leur passé afin de rajeunir en quelque sorte et de s'orienter vers une nouvelle vie. La raison en est sans doute que le regard d'en haut élève l'âme au-dessus du quotidien en lui faisant voir la vie terrestre sous un aspect inaccoutumé. À la fin du troisième acte du second Faust, après la mort d'Euphorion, Hélène abandonne Faust, ne lui laissant dans les mains que son vêtement. Et Méphistophélès lui dit, « Ce vêtement t'emportera au-dessus de tout ce qui est vulgaire dans l'espace éthéré. Ce vêtement se transforme alors en nuage qui entraîne Faust dans les airs. C'est en volant grâce à ce nuage qu'il se retrouve au début du quatrième acte, seul au sommet d'une haute montagne. » C'est le sommet d'une haute montagne. Alors, il ne se contente pas de contempler sous ses pieds la plus profonde des solitudes, mais il prend conscience du sens de son passé et il envisage un nouvel avenir. L'essentiel de son passé apparaît à Faust sous la forme de deux nuages, l'un qui a la forme d'Hélène, l'autre celle de Marguerite, qui monte de plus en plus haut dans le ciel. Le premier reflète éblouissant le sens profond des jours disparus. Le second lui rappelle l'amour de son aurore et, s'élevant dans l'éther, apporte avec lui le meilleur de lui-même. Son avenir, c'est une totale réorientation de sa vie, mener une vie active au service des autres hommes. Dans son vol qui l'a conduit sur la plus haute montagne, il a vu la mer envahir la terre. Il peut dès lors exposer à Méphistophélès son grand projet, permettre à tout un peuple de vivre à l'abri de cette menace. C'est la réalisation de ce plan que décrira le cinquième acte, dans lequel apparaîtront l'ambiguïté et les dangers de l'action humaine. De même, tout au début des années de voyage de William Meister, Goethe place aussi son héros en haut d'une montagne, à l'ombre d'un puissant rocher, William était assis en un site sévère et imposant où le sentier abrupt, tournant une saillie, dévalait rapidement vers les profondeurs. Comme pour Faust, la montagne sera pour Wilhelm le lieu et la cause de la nouvelle orientation de sa vie. Le changement profond qui s'opère n'est pas défini au début du chapitre, mais il s'exprime dans la lettre que, dans ce premier chapitre, Wilhelm écrit à Nathalie, « Me voici enfin sur les sommets de ces montagnes qui nous séparent d'une barrière plus puissante que toute l'étendue du pays déjà franchi. » La montagne signifie donc la séparation avec le passé, mais aussi une perspective nouvelle qui aura finalement la même orientation que celle de Fausse, se consacrer à la pensée et à l'action. Mais dans le cas de Faust, en se laissant emporter par une ambition sans borne, et dans le cas de Wilhelm, en étant un renonçant, comme l'indique le sous-titre du roman, c'est-à-dire conscient de ses limites, que ce soit dans le domaine de la connaissance ou de l'activité. Alors, c'est des extraits du livre de Pierre Hadot, « N'oublie pas de vivre », Goethe, et « La tradition des exercices spirituels ». Alors, on prend une dernière pause musicale, puis ensuite de ça, je reviens avec la marche et les philosophes.
Oh.
C'était un chant georgien, c'était des très, très, très anciens chants. Le titre de la chanson, c'est Oro Vela. Et le chanteur, c'est Hamlet, H-A-M-L-E-T, Gonashvili, G-O-N-A-S-H-V-I-L-I. On dit que c'était une chanson qui était chantée durant les labeurs, pendant qu'on labourait les champs. Mais on dit que cette chanson aurait pu aussi être une vieille, très, très ancienne chanson païenne qui était reliée à l'agriculture et qui s'adressait, on dit qu'il s'adressait aux forces élémentales de la nature. Alors, c'est des chants immémoriaux des anciens pays, la Géorgie. Alors voilà, pour terminer, on va revenir au livre de Roger-Paul Droit, « Comment marchent les philosophes ». Alors on dit, la philosophie serait donc une marche, à tout le moins une manière de marcher. Je vous imagine encore un peu réticent, pas vraiment convaincu. Ça, c'est M. Paul Droit là, qui s'adresse au lecteur, qui dit que la philosophie, dans le fond, c'est une marche. J'imagine que vous n'êtes pas convaincu. Vous vous dites sans doute que je me paie de mots, que je prends à la lettre ce qui n'est qu'une façon de parler. Eh bien, continuons d'avancer. Il se pourrait que les récits qui suivent et les rencontres et réflexions qu'ils proposent vous fassent voir autrement. On y découvre, en effet, qu'une argumentation procède comme nous pour avancer. Elle commence par déstabiliser le point d'ancrage initial, risque de tomber, se rattrape par une réponse à l'objection dérangeante, qui est à son tour soumise à la critique. On y verra clairement qu'une démonstration est bien une marche. Elle part toujours d'un point précis, constat de départ, intuition, question posée, et s'efforce de parvenir à un autre point, conclusion, résultat, véracité ou fausseté. Entre départ et arrivée, les étapes sont autant de pas dans la marche, jalon après jalon. La démonstration progresse, les pas s'enchaînent et l'argumentation avance. Peu importe que le trajet soit long, qu'on ne soit pas en mesure d'embrasser d'un seul regard la totalité du parcours, quand de nombreux pas s'intercalent entre points de départ et conclusion. Du moment que chaque avancée est certaine, chaque étape bien assurée, chaque jalon arrimé au précédent, le voyage entier est valide. Descartes a fortement insisté sur ce point et sur les longues chaînes de raisons assurant la solidité d'un parcours logique. Même si je ne peux pas voir toute la démonstration, l'embrasser d'un seul coup d'œil, je reste confiant dans la validité du résultat parce que je me suis assuré de la rectitude de chaque étape. Autour de cette idée majeure, les penseurs de l'âge classique convergent. Tous conçoivent la connaissance rationnelle comme une marche qui progresse en direction de la vérité et l'atteint si elle se garde de faire un faux pas. Ces philosophes n'ont pas oublié, même quand ils ne le disent pas, qu'une méthode est d'abord un chemin. Penser avec méthode, c'est marcher efficacement selon les voies de la logique, atteindre aussi des vérités et à partir de celles-ci, d'autres encore, qui sont nouvelles, mais ne sont pas moins vraies. Toute méthode a pour but d'accroître les connaissances, de progresser au-delà des frontières anciennes. À cette exigence de méthode, d'autres philosophes ont opposé des manières de marcher sans but au pays des idées, parfois sans boussole, guidées par le seul plaisir de la promenade qui avance sans rien prévoir. Elle flâne sans règle, sans destination fixée. La promenade n'agit pas comme la démonstration. Elle n'accroît pas le savoir. Elle intensifie le plaisir. La marche méthodique est précise. La promenade se veut folâtre. L'une contrainte, l'autre libère. La méthode est rentable, ses résultats tangibles. La promenade ne se justifie que par le désir d'être libre, de vivre, penser et marcher à son gré. Les deux ne s'excluent pas nécessairement l'une l'autre. Malgré tout, ce ne sont ni les mêmes philosophes ni les mêmes moments de l'histoire qui privilégient la méthode ou qui préfèrent la promenade. Vous allez l'éprouver en cheminant avec les uns et les autres. Alors, on approche de la fin de l'émission. Je vais y revenir la semaine prochaine. On parle ici au Moyen-Âge. Guillaume d'Ockham. Supprime les pas inutiles. Le Moyen-Âge n'est pas achevé. La Renaissance pas même entamée. Pourtant, tout bouge en Europe à la fin du 13e siècle. C'est alors que naît Guillaume d'Ockham en Angleterre, dans le comté de Surrey, mine de rien, en quelques années, en écrivant peu de textes, ce moine franciscain va nettoyer la philosophie. Il l'a fait changer de registre, de tempo, de perspective. Avec lui, elle marche autrement. Pour sa part, il parcourt l'Europe, le plus souvent à pied, d'Oxford. Il prolonge ses études à Paris et revient enseigner à Oxford. Il est convoqué par le pape en Avignon. Ses écrits sont suspectés d'hérésie. Il rejoint ensuite Louis de Bavière à Pise, puis à Munich, où il publie et enseigne jusqu'à sa mort en 1347. En ce temps, l'université est européenne. Tous les clercs circulent d'un pays à l'autre, parlent et lisent une même langue, le latin. Les idées marchent avec les hommes, se diffusent et s'affrontent avec une nouvelle vivacité. Des philosophes itinérants, le temps d'Ockham en est plein. D'ailleurs, tous les gens de savoir, du droit à la médecine, de la théologie à la logique, durant des siècles, parcourent l'Europe d'est en ouest, du nord au sud, avec plus d'aisance que nous le faisons. Moins vite que nous, certainement, avec bien plus d'évidence, de simplicité. Mais ce ne sont pas des pérégrinations qui rendent, pérégrinations qui rendent ce maître remarquable. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine. L'émission est terminée. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde Musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
Oui! Wow!
Ah, ça, c'est les points Inspire de votre offre extra. Juste pour vous.
Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
On va voir.
Oh, wow!
Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services.